BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Je suis avec Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous avez passé un bon week-end?
Excellent.
Allez, c'est parti, on va décrypter les dernières infos avec également nos reporters et nos invités. À la une de ce lundi 3 octobre, les députés qui font leur rentrée ce lundi, au menu l'examen du projet de loi sur l'assurance chômage, ce qui est acté, ce qui reste à définir. Les débats en tout cas vont être tendus. On va voir ça avec Caroline Morisseau. La marche arrière de Londres sur les impôts des plus aisés, le plan de Liz Truss a trop inquiété les marchés. La première ministre et son chancelier de l'échiquier sont obligés de céder. On en parlera avec Sophie Loussouarne dans 3 minutes. Et puis dans une dizaine de minutes, nous parlerons alternative au pétrole avec Nicolas Sordet, directeur général d'Afiren, qui vient d'ouvrir sa grande bio-raffinerie en Moselle. Il nous expliquera ce choix. Et puis à 12h30, comme tous les jours, Lorraine Goumeau nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission BFM avec vous. On répond à toutes les questions que vous nous avez posées. Allez, tout de suite, c'est l'heure du journal. Le coup d'envoi donc de la session parlementaire aujourd'hui, Caroline Morisseau. Parmi les tout premiers textes qui sont au cœur des discussions, l'assurance chômage et les débats s'annoncent tendus.
Oui, ça s'annonce compliqué. Pourtant, le gouvernement joue gros, puisqu'il doit obtenir le feu vert des députés sur deux points. D'abord, il faut qu'il puisse prolonger toutes les règles qui ont été mises en place dans le cadre de la précédente réforme qui arrive à échéance le 31 octobre prochain. Et donc, faute de quoi, s'il ne peut pas les prolonger, ce sont des milliers de chômeurs qui vont se retrouver sans cadre juridique et qui ne pourront donc plus percevoir leurs allocations chômage. Alors, a priori, pas de problème. Cette mesure devrait passer sans difficulté. Le deuxième point, le gouvernement veut pouvoir prendre la main jusqu'à fin décembre 2023 pour mettre en place sa nouvelle réforme de l'assurance chômage. Derrière, il veut pouvoir moduler les indemnités chômage en fonction de la conjoncture. Donc, elle serait plus dure quand tout va bien et inversement. Pour cela, il a déjà prévenu qu'il ne souhaitait pas jouer sur le montant des indemnités. Il ne va pas réduire le montant des indemnités. Il va plutôt jouer sur la durée ou les conditions d'ouverture. Mais derrière, beaucoup de points restent arbitrés. À quel point on durcit? Quand est-ce qu'on considère que tout va bien ou pas? Est-ce qu'on tient compte du taux de chômage? Est-ce qu'on tient compte du nombre d'emplois non pourvus? Est-ce qu'on module ces règles aussi en fonction des bassins d'emploi? Tout cela reste arbitré. Ça n'a pas encore été définitivement tranché. Le gouvernement veut aller vite. Il veut que cette réforme entre en vigueur dès janvier prochain. Encore faut-il qu'il puisse rapidement prendre la main et donc que ce décret soit adopté. Or, on sait que l'opposition, les députés de la NUPES, sont fermement opposés à cette réforme et qui vont tout faire pour empêcher le gouvernement d'aller vite.
La réforme de l'assurance chômage qui, en plus, Jean-Marc, merci Caroline, devrait être la moins difficile à faire passer, vu ce qui attend derrière.
Oui, a priori, par rapport aux autres enjeux, il va y avoir la retraite, il y a le budget et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et on voit bien qu'en fait, de moins en moins, la classe politique ne s'intéresse au contenu des textes qu'on va lui soumettre, et plutôt au moment où les hostilités vont être suffisamment développées pour que le président de la République envisage une dissolution. Ouais. Le mot dissolution commence à circuler. J'espère qu'on ne va pas retrouver une situation un peu comme sous la 4e République où on allait de gouvernement de 48 heures en gouvernement de 48 heures. Il va y avoir une forme de sagesse qui va s'établir en disant on va donner un peu de temps avant de commencer véritablement la guerre institutionnelle.
Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. Merci beaucoup Caroline Morisseau. Les efforts de sobriété demandés aux Français ne sont pas encore visibles. C'est ce qu'affirme Emmanuelle Wargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Toutefois, pas d'inquiétude à avoir pour l'instant selon elle. Elle était l'invitée de Good Morning Business ce matin, on l'écoute.
En électricité, on ne le voit pas encore. En gaz, on le voit plutôt pour les consommateurs, entreprises et industriels. Mais on a aussi dit aux Français que l'effort serait à faire en période de pointe et on n'est pas encore en période de pointe. Le chauffage n'est pas toujours remis ni dans les immeubles, dans les maisons, dans les bureaux. Donc c'est un peu tôt, même techniquement, pour dire si ça va marcher.
Et pourtant, les copropriétés, contrairement aux particuliers, doivent déjà faire face, dans l'immédiat en tout cas, à des factures qui flambent et donc à des problèmes de trésorerie. Les copropriétaires vont bien être protégés par le bouclier, mais les copropriétés doivent malgré tout avancer les frais. Pauline Tadevin et Marie-Cœur de Roy.
Foncia, premier syndic de copropriété de France, surveille la situation comme le lait sur le feu. Et pour cause, dans les copropriétés, pas de tarif réglementé, c'est le marché libre. Alors oui, elles aussi bénéficient du bouclier tarifaire, mais elles doivent avancer les frais et ne sont remboursées que 4 à 5 mois plus tard. Résultat, les charges trimestrielles s'envolent. Chez Foncia, les choses ont été anticipées dès le printemps dernier, au moment des assemblées générales. Il n'empêche, les sommes dues en attente de paiement ont augmenté de 10% sur un an dans ces copropriétés sous gestion. L'Île-de-France et le Sud-Est sont les plus concernés par ces retards. Rien de dramatique, mais il faut anticiper, nous dit-on chez Foncia. Dans toutes ces difficultés, il y a tout de même aussi des copro-chanceuses, celles qui avaient négocié des contrats juste avant l'envolée des cours à des prix ultra faibles pour des durées de 3 ans, comme cette copropriété de Saint-Genis-Laval près de Lyon. Alors que le mégawattheure atteint désormais 180 euros, ici, on le paie 15,33 euros depuis avril 2020 et jusqu'à avril prochain.
C'est l'heure de notre focus. Rappelez-vous, il y a 10 jours, Liz Truss et son chancelier de l'échiquier, Kwasi Kwarteng, annonçaient un plan de soutien à l'énergie massif pour les ménages, accompagné de vastes baisses d'impôts. La baisse d'impôts sur le revenu pour la tranche supérieure, qui serait passée de 45 à 40%, a particulièrement fait polémique, accusé de favoriser les plus aisés. Et le plan, dans son ensemble, avait semé le trouble sur les marchés financiers. On en parle avec vous, Sophie Lussouarn. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni. Ça y est, après un week-end très difficile pour Liz Truss, le gouvernement britannique est donc obligé de faire marche arrière.
Oui, bonjour. En effet, le congrès du Parti conservateur s'est ouvert dimanche 2 octobre dans une ambiance particulière de mécontentement des militants. Et face à la menace de certains députés conservateurs de ne pas voter le mini-budget, le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a renoncé à diminuer le taux marginal d'imposition de 45% à 40%, qui n'aurait bénéficié qu'aux revenus supérieurs à 150 000 livres. Pardon.
Oui, c'est ça.
Face à la foule.
Oui, continuez.
Donc, c'est déjà un succès pour les députés qui s'opposaient à cette mesure qui était très inégalitaire. Et donc le gouvernement a fait marche arrière également face à l'avancée des travaillistes dans les sondages qui sont à 54%, soit 33% d'avance sur les conservateurs qui sont à 21% dans les sondages aujourd'hui. Alors la livre a chuté la semaine dernière à son plus bas niveau contre le dollar, soit 1,09 dollars, avant de remonter aujourd'hui à 1,12. Par ailleurs, la Banque d'Angleterre a dû intervenir pour sauver les fonds de pension et le gouverneur Andrew Bailey a également augmenté les taux d'intérêt de 0,5%. Ce que l'on peut dire, c'est que de grandes incertitudes planent sur l'économie britannique avec l'augmentation des prêts hypothécaires pour des millions de Britanniques. L'inflation a atteint 10% depuis juillet 2022 et les ménages ont aujourd'hui du mal à payer leurs factures d'électricité et à faire face aux dépenses quotidiennes pour se nourrir et se chauffer. Par ailleurs, le syndicat des chemins de fer, RMT, a lancé la plus grande grève depuis 30 ans, du 1er au 5 octobre, pour faire fléchir le gouvernement pendant son congrès.
Oui, ambiance explosive au Royaume-Uni. Effectivement, on l'a dit, hein, Jean-Marc Daniel, la Banque d'Angleterre a bien essayé de jouer les pompiers, mais ça n'a pas suffi. Hein.
Non, la Banque d'Angleterre avait une stratégie qui avait été annoncée il y a un an, en septembre dernier, par son gouverneur, qui était d'essayer de lutter contre l'inflation par l'appréciation du taux de change. Et pour obtenir cette appréciation, le gouverneur misait sur une différentielle de taux d'intérêt, notamment par rapport à la politique monétaire menée aux États-Unis. Et donc là, en fait, il est rattrapé par la politique monétaire américaine qui se durcit au même rythme que la sienne. Donc il n'arrive pas à stabiliser la livre. En outre, au sein du Parti conservateur, un certain nombre de gens disent « Margaret Thatcher était arrivée après la venue du FMI ». L'actuel Premier ministre qui se réclame de Margaret Thatcher, elle va provoquer l'arrivée du FMI. Et donc, il faudrait qu'elle change un peu de politique économique et notamment qu'elle tienne compte du déficit des finances publiques qui est en train d'exploser littéralement. Donc, elle est dans une situation difficile. La dernière remarque que je ferai, c'est que les conservateurs ne sont pas tous pro-Thatcher. Il y a encore un vieux fond qui dit Thatcher, elle était vraiment très hostile aux classes populaires. Mmh. Et il y a un héritage du Parti conservateur qui est de garder, de prendre soin des classes populaires et qui avait été assez fructueux puisque les conservateurs avaient gagné des circonscriptions dans le nord de l'Angleterre, dans un endroit où on votait assez traditionnellement travailliste.
Oui, effectivement. Sophie Lou-Souarn, rapidement, le chancelier de l'échiquier va s'exprimer cet après-midi. Est-ce qu'il peut tomber pour cette gestion chaotique de la crise ?
Je crois que le Premier ministre Liz Truss essaiera de le maintenir puisqu'elle avait soutenu son mini-budget, mais en tout cas, de nombreux députés conservateurs ont mis en garde le parti qu'il risquait de perdre les prochaines élections législatives en 2024 ou 2025 s'il ne remettait pas en question sa politique économique. Ce qui compte, c'est la stabilité économique et le rétablissement de la confiance des investisseurs. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la réputation de Liz Truss est atteinte à peine un mois après que la reine lui ait demandé de former un nouveau gouvernement le 6 septembre. Et le Premier ministre et le ministre des Finances n'ont pas expliqué leur politique économique et n'ont pas consulté l'Office for Budget Responsibility avant de présenter leur mini-budget. Ils l'ont fait après, vendredi dernier, 1er octobre. Mais c'était déjà trop tard pour les investisseurs.
Mais oui, démarrage très très compliqué pour ce nouveau gouvernement. Merci beaucoup Sophie Lou-Souarn, spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le focus de 60 minutes business. Allez, tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Et aujourd'hui, vous vous intéressez à la santé du Crédit Suisse, Jean-Marc Daniel.
Et oui, on quitte le pays qui a inventé la finance, le Royaume-Uni, pour aller dans le pays qui a fait vivre la finance et qui fait vivre la finance, la Suisse. En effet, le Crédit Suisse fait l'objet d'un certain nombre d'inquiétudes et des appels en capitalisation sont sur le marché et un certain nombre de gens s'interrogent sur qui va racheter le Crédit Suisse, va intervenir dans le Crédit Suisse et surtout, quelle est la situation réelle du Crédit Suisse? Alors, c'est d'autant plus inquiétant que c'est une institution, ça s'appelle le Crédit Suisse, mais c'est à Zurich, parce que ça a été créé à une époque où on n'imaginait pas de parler une autre langue que le français, et de donner un nom autre qu'en français, même à une institution en Suisse allemande. Donc, le véritable enjeu derrière tout ça, c'est est-ce que les problèmes qu'ils rencontrent sont des problèmes qui sont annonciateurs de l'ensemble des problèmes du système monétaire et financier, et notamment également des compagnies d'assurance, ou est-ce que c'est un cas isolé, c'est un mouton noir dans un système qui a préparé, et qui a préparé quoi? Eh bien, il a préparé la remontée des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt remontent, le portefeuille d'obligations que vous détenez perd de sa valeur. Oui. En effet, vous avez des obligations qui rapportent 1%. Si vous voulez les vendre, vous avez sur le marché maintenant des obligations d'État qui rapportent 2,5%, 3%, 4% pour les obligations italiennes. Mmh. Et donc les gens disent, moi j'achète pas une obligation qui rapporte 1%, j'achète des obligations qui rapportent 2, 3, 4%. Et donc le prix de l'obligation que vous mettez sur le marché s'en trouve immédiatement abaissé. Et donc toute la valeur, tous les portefeuilles que détiennent ces institutions financières perdent de leur valeur. Et la conséquence, c'est est-ce qu'elles sont capables d'affronter une perte de la valeur de leurs actifs? Normalement, c'est les fonds propres, elles ont dû reconstituer leurs fonds propres, mais maintenant, les banques centrales sont en train de regarder, banque par banque, compagnie d'assurance par compagnie d'assurance, si le travail a été fait. On peut penser que depuis 2008-2009, raison gardée a été le principe essentiel de gestion, qu'on s'est aperçu que finalement le métier de banquier était un métier où moins on prenait de risques, mieux ça valait, que le grand principe c'était de ne prêter qu'aux riches, donc que les banquiers avaient mis de l'ordre dans leur action. Il n'en reste pas moins que je pense qu'il va falloir admettre une chose simple, de temps en temps, quand une banque se trompe, eh bien, il faut lui faire faillite. Alors, il faut préserver les dépôts.
Il ne faut pas que le système soit fié là-dessus. Hein, c'est ça le problème. Une banque, d'accord, mais seulement une banque.
Voilà. L'enjeu de la Banque centrale, c'est de préserver le système, mais pas de préserver telle ou telle banque. Et donc, le Crédit Suisse, si vraiment il y a eu incompétence, malversation, erreur lourde, il faut se faire à l'idée que le Crédit Suisse, malgré son histoire, malgré son nom en français, alors qu'il est en Suisse allemande, le Crédit Suisse pourrait éventuellement faire faillite.
C'est une possibilité. On suivra ça de toute façon. Merci beaucoup.
De très près.
De très près. Merci Jean-Marc. Allez, tout de suite, on va faire un point Euronext. Avec vous, Aude Kersulek, aujourd'hui, des craintes sur la stabilité financière qui se répercute sur les marchés actions. C'est bien rouge sur le CAC 40 aujourd'hui.
Et oui, -1,07%. On est tout juste à 5700 points sur le CAC 40. Et puis on baisse aussi du côté du DAX à Francfort, -0,7%, ou de l'Eurostox, -0,9%. C'est vrai qu'on est bien pessimiste aujourd'hui après vraiment ce week-end mouvementé où les craintes de ce nouveau risque financier, ce nouveau risque Crédit Suisse, vous venez d'en parler, qui est revenu sur les marchés. Et si une grande banque d'investissement faisait faillite, la deuxième banque suisse donc est en pleine restructuration, changement de stratégie. Alors sa capitalisation boursière s'est effondrée depuis quelques semaines. C'est vrai qu'elle a besoin de fonds propres, et ce qui inquiète les marchés, c'est aussi sa systémicité, c'est-à-dire que si il lui arrivait quelque chose, eh bien ça impacterait aussi tout le secteur bancaire. Voilà pourquoi les banques souffrent ce matin, ce midi. C'est le secteur qui recule le plus en Europe, hein, -2% pour le Stoxx Services Financiers. Puis on a des banques aussi sur le CAC 40 comme Société Générale qui perdent 1,8% à 20,05 €. Crédit Suisse du côté de Zurich est aussi crédité d'une baisse pour l'instant de 7,7%. C'est sévère, hein. On est à 3,67 francs suisses alors que le titre perd quand même 60% depuis le 1er janvier donc pour cette banque. Et puis on a aussi toutes les valeurs de croissance qui sont orientées à la baisse aujourd'hui, qui ne nous aident pas, notamment les valeurs technologiques avec Dassault Systèmes, Téléperformance et Capgemini qui forment le podium de ces baisses et qui perdent toutes plus de 3,5%. C'est la même orientation que le futur du Nasdaq qui est lui aussi orienté dans le rouge du côté de Wall Street.
Et sur le marché des matières premières, Rod, il pourrait y avoir du remous sur le pétrole cette semaine.
Oui, alors l'OPEP Plus se réunit en physique ce mercredi et on a su ce week-end par diverses sources que le cartel était prêt à réduire sa production. Alors cette fois-ci, ça devrait être assez sévère parce que c'est vrai qu'à chaque fois on annonce des baisses et puis ça ne se fait pas. Là, on devrait voir la production journalière baisser d'1 million de barils parce que l'objectif pour le cartel, eh bien, c'est de soutenir les cours qui sont passés mais bien en dessous des $100 depuis quelques semaines. On est à $88 pour le Brent et $82 pour le WTI. Et ça ne plaît pas à ces pays producteurs. Et ça entraîne aujourd'hui tout le secteur de l'énergie à la hausse avec Total Energy qui reprend 2,3% en tête de ce CAC 40 à 49,40 €.
Merci beaucoup, Aude Kersulek. Dans un instant, notre invité sera Nicolas Sordet, cofondateur et directeur général d'Afiren qui vient d'ouvrir sa grande usine en Moselle, dans le Grand Est, une bioraffinerie. On va parler donc d'une biomolécule équivalente à des molécules pétro-sourcées. Je vais y arriver. Nicolas Sordet est avec nous dans 2 minutes. À tout de suite.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
L'invité aujourd'hui, c'est une green tech. Bonjour Nicolas Sordet.
Bonjour à tous.
Vous êtes cofondateur, directeur général d'Afiren. Alors on va rappeler ce que c'est qu'Afiren. Vous avez déjà 10 ans, votre projet a 10 ans et vous avez créé cette entreprise pour réduire l'utilisation des dérivés pétroliers dans la chaîne de production des industriels. Expliquez-nous.
En fait, l'idée de la technologie, c'est de convertir tout ce qui était déchets, on va dire agricoles, en molécules qui sont faites aujourd'hui à base de pétrole. Et donc d'apporter une solution verte à quelque chose qui est aujourd'hui d'origine fossile. Donc c'est ça l'origine et l'idée de base. Mais après, la question c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait le faire mieux, en termes de process de production, comment est-ce qu'on réduit l'impact environnemental, comment est-ce qu'on ne consomme pas d'eau, comment est-ce qu'on réduit nos impacts et les émissions de CO2. Voilà, c'était vraiment ça en fait l'idée qui s'est construite au fur et à mesure.
C'est un projet dans son ensemble. Et là, vous venez d'inaugurer, la semaine dernière, votre immense bioraffinerie. Elle se trouve en Moselle. Alors, vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce site. Et puis, ça y est, elle est faite. Elle est prête à produire maintenant.
Elle est faite. C'est l'aboutissement de 10 ans de travail. Donc, c'est très enthousiasmant parce que c'est finalement le résultat de tout ce travail, de toute cette énergie. C'est le début d'un autre chapitre. Et pourquoi là-bas? Parce qu'on est proche de... On avait besoin d'un site industriel. On a été aidé par Total aussi. Total Energy pour nous installer sur ce site-là. Et on est au cœur de la production de la biomasse. C'est les résidus de la betterave à sucre qu'on va utiliser pour cette usine. Et aussi de nos clients. On est au cœur de l'Europe finalement.
Oui, parce que effectivement, vous utilisez en matière première cette betterave sucrière. Vous seriez ailleurs, vous pourriez utiliser une autre matière première.
C'est l'avantage de notre technologie, de notre approche de fermentation, puisqu'on commence avec des, on le voit derrière nous, avec des grosses cuves et de les fermentations. Et ça nous permet de pouvoir aller à l'étranger, trouver d'autres types de matières premières, d'être moins dépendant, nous adapter à d'autres matières premières agricoles. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet de faire le lien entre une ressource agricole et c'est pas une récolte. On parle de résidus.
Oui.
Et comment est-ce qu'on peut convertir ces résidus en quelque chose de positif, en ingrédients qui viennent de la chimie?
Un ingrédient qui va ensuite entrer dans la composition de quel type de produit?
Alors, c'est des produits de tous les jours. C'est des produits dans l'alimentaire, par exemple des conservateurs. C'est des arômes. C'est dans la nourriture animale pour remplacer les antibiotiques, mais c'est aussi en cosmétique, c'est dans des lubrifiants pour les moteurs, c'est dans la pharmacie, c'est partout. En fait, c'est la chimie. C'est la chimie, mais faite autrement, faite à base de ressources, de résidus, de coproduits de l'industrie et de l'agriculture.
Et qui nous montre bien qu'il y a des matériaux pétro-sourcés partout. Jean-Marc?
Oui, alors ces résidus, ils devenaient quoi avant que vous les utilisiez?
Souvent, ils étaient utilisés en nourriture animale, ou pour faire de l'éthanol. Voilà, là, on va en prendre une toute petite partie, pour aller faire cette chimie verte, finalement. L'Europe est forte en termes de chimie, mais elle a besoin aussi d'être capable de se préparer à cette transformation et à l'impact climatique qu'on est en train de vivre.
Et alors, on parle beaucoup de réindustrialisation. Est-ce que les pouvoirs publics vous ont aidé? Est-ce que vous avez eu droit à un ministre pour voir votre inauguration? C'est le grand truc, là. Il y a le ministre qui vient, préfet. Vous avez eu droit à ça?
Alors, on a eu le droit, pas à un ministre, mais au président de la région. On a eu des ministres qui sont venus. Effectivement, en fait, c'est promouvoir l'industrie en France. On a un savoir-faire à maintenir. À
garder. Et à part la venue des ministres, est-ce que vous avez eu des fonds? Est-ce que vous avez...
Et on a été aidé financièrement à la fois par les autorités localement, aussi par l'Europe. On avait gagné une subvention d'un peu plus de 20 millions d'euros pour financer cette usine. Donc ça montre, en fait, on est dans ce modèle de bioéconomie pour se préparer à la croissance de demain. Comment est-ce qu'on peut faire mieux avec finalement des ressources qui sont limitées? C'est ça le sujet.
Mais alors justement, quelle part ces ingrédients, ces matières biosourcées vont-elles prendre dans l'économie de demain? On parle de quelle ampleur?
Alors, nos marchés, c'est 13 milliards de dollars au niveau mondial. Donc l'idée, c'est de se développer. C'était l'objet de notre introduction en bourse l'année dernière pour être capable de construire des usines localement. Je pense que le mode de la mondialisation totale a peut-être changé un petit peu. Et maintenant, on a besoin de construire des usines plus proches, des consommateurs un peu plus petites. Voilà, donc on va pas changer toute la chimie, mais on va changer peut-être une partie de cette chimie-là avec ces ingrédients qu'on va utiliser tous les jours.
Est-ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très intéressant, parce que vous pourriez vous faire la guerre avec Total Energy, et non, ils vous ont aidé?
Ils nous ont aidés parce qu'effectivement, ils nous ont mis à disposition un site, ils aident finalement cette industrie, cet écosystème. On ne fait pas de l'énergie, on fait des ingrédients, mais malgré tout, on essaye de transformer cette matière première et de réduire les émissions de CO2. Total Energy fait aussi, je pense, je ne suis pas l'avocat de Total Energy, mais ils font beaucoup d'efforts aussi pour essayer d'évoluer vers une énergie plus propre.
Ça les aide aussi, effectivement, dans leur processus, dans leur transition.
Je pense. Et puis, la question vraiment pour demain, c'est comment est-ce qu'on crée de la croissance alors que les ressources sont de plus en plus limitées? Comment est-ce qu'on optimise ces ressources-là avec un réchauffement climatique en cours? Donc, comment est-ce qu'on fait quelque chose de plus bas carbone et de plus optimisé?
Et pour vous, quel est l'avenir? La prochaine usine, c'est dans 10 ans ou est-ce que vous allez en ouvrir plusieurs?
Alors là, on essaye de se calmer parce qu'on a envie d'avancer assez vite. Donc cette usine, on est en train de la démarrer. On a des discussions pour préparer l'usine 2 à la fois en Asie et aux États-Unis. Je pense que ça, c'est l'objectif, c'est d'aller assez vite vers 3 usines et ensuite d'être capable de développer notre modèle et de devenir un acteur de la chimie verte.
Et aux États-Unis, par exemple, votre objectif, c'est d'ouvrir la prochaine usine. À quelle échéance? À quel délai?
Voilà, on espère pouvoir faire une annonce peut-être d'ici la fin de l'année. En tout cas, d'ici 2-3 ans, d'être capable d'avoir une deuxième usine en production.
Et la matière première aux États-Unis, ce serait quoi?
Je vous disais, on est en train de discuter, on optimise, on pense, on réfléchit au meilleur impact à la fois économique, parce qu'on a besoin d'être rentable, mais aussi environnemental. Donc on parle aussi de l'énergie, de la matière première. Donc je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais on a le choix entre plusieurs types de matières premières. Et on met au cœur de notre réflexion vraiment les émissions de CO2 et l'impact environnemental. Ça, c'est clé pour notre développement. C'est ce qui fait notre spécificité d'une chimie finalement plus durable.
Sans parler de l'impact sur l'emploi dans les régions, vous avez embauché combien de personnes?
C'est une 160 emplois directs plus 200 emplois indirects.
Voilà, et on attend les autres usines et les autres annonces. Vous reviendrez nous voir.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Nicolas Sordet, cofondateur et directeur général d'Afiren, d'être venu aujourd'hui dans 60 minutes business. Tout de suite, nous accueillons Pierre Kupferman.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Et Pierre, on commence ce top 3 du web par cet entretien croisé des patrons de Stellantis et de Renault qui suscite beaucoup d'intérêt des lecteurs.
Oui, interview accordée ce week-end aux Parisiens, donc, dans lequel, d'ailleurs, aussi bien Luca De Meo que Carlos Tavares ne font vraiment pas dans la langue de bois. Alors, je vous cite quelques-unes, hein, des petites phrases que nous avons sélectionnées. Première phrase, Carlos Tavares. Pourquoi avons-nous autant de Français amoureux de leur automobile dans un pays fondamentalement autophobe? Et dans le même registre, hein, Luca De Meo, j'ai travaillé en Allemagne chez Volkswagen et Audi. Là-bas, il y a une fierté de l'industrie automobile qui n'existe pas en France. Vous êtes d'accord, Jean-Marc, avec cette idée que la France serait devenue anti-voiture?
Non, je crois qu'il y a deux France. Oui. Il y a une France anti-voiture et une France pro-voiture. Mais quand on voit la taille des bouchons qu'il y a tous les week-ends, on voit bien quand même qu'il y a encore beaucoup de gens qui aiment utiliser leur voiture.
L'avenir pour la voiture, effectivement. Le deuxième sujet qui intéresse le plus, c'est ce recul du gouvernement britannique au sujet de la tranche d'imposition sur le revenu la plus élevée du pays. Un taxe des riches, ça intéresse.
Donc c'est l'annonce de la suppression de la
même tranche. Même si c'est en Angleterre, on regarde si on a taxé les riches ou pas.
Cette annonce de la suppression de la tranche à 45%, elle avait fait plonger les marchés financiers. Et elle a obligé, donc, ce lundi, le ministre des Finances britannique à faire un vraiment très inhabituel mea culpa sur Twitter. Je vous cite son tweet. « Il est clair que la suppression du taux d'imposition à 45% a éclipsé notre mission qui est de nous attaquer aux difficultés dans notre pays. Par conséquent, j'annonce que nous n'allons pas la poursuivre. » Et Kwasi Kwarteng d'ajouter « Nous comprenons, nous avons écouté. » Alors, le Royaume-Uni va continuer à taxer davantage les contribuables qui gagnent le mieux leur vie. Jean-Marc, combien d'États membres dans l'Union européenne cette fois ont une tranche à 45%, voire au-delà sur les revenus, hein?
Ah, je pense qu'il y en a très peu. Je pense que l'idée de la tranche à 45% est un retour. Pendant longtemps, on était redescendu à 40%. Je pense qu'il y a très peu de pays qui sont à
45%. 13 quand même.
Hein. Ah, 13, la moitié, oui, quand même.
France, il y en a 13 sur les 27, oui.
France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pays-Bas, Slovénie, Irlande, Suède, Danemark et Finlande. Finlande, c'est 56,95% quand même.
Oui, il y a les nordistes habituels, les social-démocraties nordiques, c'est ce qui est le plus intéressant. La Slovénie, c'est des pays comme ça, encore des tranches à 45%.
D'arriver vers l'Est.
Et on finit avec un nouveau venu, Pierre, sur le marché des trains à grande vitesse.
Oui, et ce nouveau venu, c'est le Portugal. Donc le pays veut relier les deux principales villes du pays, c'est-à-dire Lisbonne et Porto, en 85 minutes quand même, hein, au lieu de 3 heures aujourd'hui. Cette nouvelle ligne à grande vitesse devrait être opérationnelle en 2030. À terme, elle devrait d'ailleurs aussi être connectée à l'Espagne via Vigo. Et Jean-Marc, quel sera le constructeur de ces nouveaux trains portugais?
Alors, on pourrait espérer que ce soit Alstom, mais si ça se trouve, ça va être un Chinois, un Japonais ou...
J'ai essayé de vous piéger. En fait, c'est pas décidé encore. L'appel d'offres n'est pas lancé.
Mais, vous avez mais alors, raison. Espérons que ce sera Alstom.
Voilà,
alors.
Alstom devrait être sur les rangs. Enfin, on l'espère. Oui. Au moins en compétition avec...
Faisons tout pour que ce soit Alstom.
En compétition peut-être avec l'Espagnol CF, qui est quand même aujourd'hui celui qui équipe la Renfe.
Ah oui. Merci beaucoup. Merci Pierre Kupferman pour ce top 3 du web, les articles les plus lus de notre site. Merci Jean-Marc, à demain.
À demain.
Dans un instant, on retrouve le journal de Stéphanie Collot. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, la production manufacturière enregistre son plus fort recul depuis mai 2020. L'indice PMI s'est nettement contracté en septembre en cause de la chute de la demande liée à la hausse des prix. Le gouvernement britannique tempère sa politique controversée de baisse d'impôts massive. Liz Truss renonce à supprimer la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, une mesure critiquée jusque dans les rangs du Parti conservateur. Ce week-end, l'agence S&P a dégradé la perspective de sa note pour le pays. Elle s'inquiète de la trajectoire de la dette. L'Italie se dirige vers une récession. Le Trésor italien annonce que l'économie du pays va se contracter pendant 3 trimestres consécutifs. Une reprise est attendue à partir du 2e trimestre de l'année prochaine. Et grâce à la hausse de la demande internationale, à une baisse des prix du gaz et aux aides du plan de relance européen. Les autorités européennes alertent sur les risques pour la stabilité du système financier. C'est du jamais vu depuis 12 ans. Le comité européen du risque systémique, présidé par Christine Lagarde, estime qu'avec l'inflation, les risques sur la stabilité financière dans l'Union se sont accrus. De son côté, Crédit Suisse tente de rassurer sur l'état de ses liquidités et de ses positions. Tout le week-end, des cadres de la banque ont appelé leurs principaux clients pour calmer leurs inquiétudes. Selon le Financial Times, depuis vendredi, les CDS de Crédit Suisse se sont envolés, atteignant un plus haut d'au moins 10 ans. Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'un risque de
défaillance. Dans l'actualité, entreprise Faurecia reçoit 213 millions d'euros de Bruxelles pour développer l'hydrogène en France. Le site d'Allenjoie dans le Doubs va produire 100 000 réservoirs par an. Le démarrage de la production est prévu en 2024. Et puis le résultat net de Bonduelle plonge. Le bénéfice net recule de 38% à plus de 35 millions d'euros. En cause, l'inflation et des difficultés dans sa filiale américaine. La marge a reculé à 2,4% mais devrait se stabiliser sur l'exercice en cours. On jette un coup d'œil au marché. À la mi-journée, le CAC évolue toujours en recul, moins 0,99%, 5 705 points, Sandra.
Merci Stéphanie Collot. Votre prochain journal à 15h.
Votre rendez-vous avec Bruno.fr, le spécialiste de tous les équipements de travail. Bruno, B-R-U-N-E-A-U, à vos côtés pour réussir.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, deuxième partie de l'émission. Lorraine nous a rejoint. Bonjour Lorraine.
Bonjour Sandra, bonjour à tous.
On parle droit du travail évidemment aujourd'hui.
On va parler aussi de nos auditeurs, de nos auditrices qui sont dans la production, puisqu'on va évoquer le sujet du chômage partiel qui fait son retour dans le sillage de la crise énergétique. Alors c'est vos questions, ce sont nos réponses et précisément celles de Nicolas Léger. Bonjour Nicolas.
Bonjour Lorraine.
Avocat associé au cabinet Proskauer avec nous sur ce sujet, crise énergétique et chômage partiel. D'abord, cadrons. Quels sont les critères économiques qui permettent à une entreprise aujourd'hui de se mettre ou de se remettre au chômage partiel, Nicolas ?
Alors, ces critères sont fixés par décret. On a la conjoncture économique, on a les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, on peut avoir des catastrophes climatiques, sinistres ou intempéries de caractère exceptionnel, ou bien transformation, restructuration d'entreprise, et enfin, toutes circonstances de caractère exceptionnel. Donc on le voit, c'est une liste assez large. Et récemment, le plan de relance en lien, économique et sociale en lien avec la guerre en Ukraine, dans ce cadre-là, le ministère du Travail est venu préciser qu'au titre des circonstances de caractère exceptionnel, on pouvait évidemment trouver les conséquences de la guerre en Ukraine.
On a l'impression que l'énergie occupe beaucoup d'espace de cerveau disponible des dirigeants. Est-ce que c'est ce que vous ressentez ou encore l'Ukraine est encore une des problématiques qui peut amener beaucoup au chômage partiel actuellement ?
Oui, on le voit. Il y a des entreprises, et la presse en fait écho, qui connaissent de réelles difficultés, celles qui sont très consommatrices de matières premières, d'hydrocarbures notamment, et je pense aux verreries. Mais c'est une inquiétude dans toutes les entreprises qui connaissent les activités de production, soit directement avec un manque de matières premières, un coût des matières premières qui s'envole, et on en entend parler très fréquemment, soit le coût de l'énergie. Oui, il y a une réelle inquiétude sur ces questions-là.
Est-ce qu'on peut rappeler la différence entre chômage partiel et chômage technique ?
Alors, en fait, ces deux vocables recoupent la même chose, c'est-à-dire un dispositif qui va faire qu'on a une réduction d'activité au sein de l'entreprise et qu'on va appliquer cette réduction d'activité aux salariés pour les mettre en chômage partiel, en chômage technique ou en activité partielle de longue durée. Mmh. On a vraiment un même dispositif.
Une question de Catherine, qu'on suppose membre du CSE de son entreprise. Elle nous demande si la mise en place du chômage partiel est forcément décidée seulement par l'employeur ou est-ce que le CSE peut avoir un rôle dans la négociation ?
Alors le CSE, s'il existe, c'est-à-dire si on est dans une entreprise de plus de 50 salariés, doit être consulté avant la mise en chômage partiel. Ça, c'est le principe. Après, avec le plan de résilience économique et sociale en lien avec l'Ukraine, on voit que l'employeur peut agir plus rapidement et va pouvoir régulariser sous les 30 jours. D'accord ? Donc, tout de même, vous conseillez évidemment de passer devant son CSE, de consulter sur le programme de la mise en chômage partiel, de faire sa demande après l'administration du travail pour bénéficier des avantages du chômage partiel et après d'informer évidemment le CSE sur comment on va faire.
Est-ce que le chômage partiel signifie une réduction du temps de travail en mi-temps, voire un arrêt total ponctuel de l'activité avec suspension du contrat de travail, Nicolas ?
Alors, on a, pour répondre à votre question, oui, il faut une réduction du temps de travail. Ça peut être une fermeture totale de l'entreprise, oui. Ça peut arriver. On l'a vu pendant la période du Covid, évidemment, oui. Où on avait du chômage partiel de longue durée, l'activité partielle de longue durée.
APLD, c'est l'acronyme qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps.
C'est vrai. Il n'y a pas de limite, ce n'est pas nécessairement un mi-temps. Il faut qu'on ait une réduction du temps de travail en dessous de 35 heures ou en dessous des horaires qui sont pratiqués habituellement dans l'entreprise. Et après, pour le reste, oui, les heures qui ne sont pas travaillés ou les jours qui ne sont pas travaillés sont des jours ou des heures pendant lesquels le contrat est suspendu. C'est-à-dire que le salarié est délié de son obligation de travailler. Il ne travaille pas, évidemment, et il percevra une indemnité à la place. Et son contrat est suspendu, ce qui fait qu'il peut vaquer à peu près librement ses occupations, sous réserve, évidemment, de ne pas manquer à la loyauté qu'il doit à son employeur, bien sûr.
Mais justement, on a deux questions de Momo, qui nous a écrit à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Il nous demande si un salarié qui est au chômage partiel peut prendre un emploi dans une autre entreprise.
Alors, il le peut. Il le peut, sous réserve évidemment d'une part de la loyauté, c'est-à-dire que le contrat est suspendu, mais les obligations essentielles demeurent, dont la loyauté. Je ne peux pas aller travailler pour un concurrent de mon employeur pendant que je connais une mesure de chômage partiel et que mon contrat est suspendu, c'est pas possible. Et puis, il faut faire également attention à d'éventuelles clauses d'exclusivité. C'est-à-dire que si on a une clause d'exclusivité licite, là encore, ça va tout de même un peu limiter la liberté d'action du salarié. Mmh. Enfin, ces clauses d'exclusivité, elles sont assez, je vais pas dire rares, mais enfin, pas si courantes que ça non plus. Et en principe, un salarié pourrait, pendant le temps de chômage partiel, mener une autre activité professionnelle, voilà, dans les limites que j'ai énoncées, et cumuler du coup une rémunération et l'indemnisation.
Donc un autre poste en l'occurrence, effectuer des tâches qui n'entrent pas dans ses fonctions habituelles, c'est aussi une question de Momo.
À l'occasion du chômage partiel,
oui,
bah, l'employeur va garder sa liberté d'affectation des salariés. S'il veut, pour éviter le chômage partiel ou à l'occasion du chômage partiel demander à un salarié de prendre un autre poste ou d'effectuer d'autres tâches, la limite ça va être celle de la qualification contractuelle. C'est-à-dire que est-ce que je donne à mon salarié des tâches ou est-ce que je lui demande d'occuper un poste qui corresponde à sa qualification ? C'est-à-dire que est-ce que ça correspond bien, par exemple, à une qualification de cadre expérimenté ou d'ouvrier spécialisé ? Et si c'est le cas, si on répond positivement à cette question, l'employeur a toute liberté d'affectation.
Est-ce que vous pouvez, Nicolas, pour être bien concret pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, nous lister quelques-uns des secteurs ou des entreprises, si vous avez le droit de les lister, où ce dont on est en train de parler a lieu actuellement?
Alors, on a beaucoup parlé des verreries, notamment, hein, les fours qui consomment énormément d'énergie et d'hydrocarbures. Mais on voit également des difficultés dans tout ce qui concerne le bâtiment. Je pense notamment aux entreprises qui produisent des matériaux d'isolation ou de bâtiment et qui ont besoin de matières premières, qui soit sont exportées par l'Ukraine, la Russie, en tout cas des pays avec lesquels on n'a plus réellement de relations commerciales. Soit ça vient d'ailleurs, mais effectivement les difficultés sont telles que le prix des matières premières a grimpé. Et puis on a beaucoup parlé également des aciéries, des productions d'acier, qui cumulent tout à la fois des difficultés en termes de matières premières et également d'énergie.
Est-ce qu'un salarié peut négocier la fin de son CDD s'il y a eu mise en chômage partiel ?
Alors, puisqu'on est en chômage partiel, on a une suspension du contrat et la loi prévoit qu'une suspension de CDD n'emporte pas modification du terme. Ce que je veux dire, c'est que si mon contrat à durée déterminée est suspendu parce que je connais du chômage partiel, ben, ça n'a aucune incidence sur la date prévue pour la fin de mon contrat à durée déterminée. Donc, le salarié peut-être négocier la fin de son CDD avec l'employeur. Il peut très bien décider, l'employeur, de rompre d'un commun accord le contrat à durée déterminée. Parce que si c'est un CDD pour accroissement temporaire d'activité et qu'on a un chômage partiel, ben c'est un peu antinomique. Et peut-être que l'employeur se dira que finalement, on entend le faire. Mais en soi, juridiquement, il n'y a pas d'impact en tout cas.
Bon, alors évidemment, on va finir sur une question de la rémunération, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de chômage. Quelle est la conséquence pour les salariés qui sont en chômage partiel ? Est-ce qu'ils touchent la même rémunération qu'en temps, si je puis dire, normal ?
Alors non, ils ne touchent pas la même chose. Les heures non travaillées vont être rémunérées à 60% du taux horaire habituel.
Oui.
Hein, d'accord, 60% avec un plancher fixé à 8,76 € et un plafond fixé à 29,89 €. Donc on a tout de même une perte de rémunération, évidemment, pour les salariés, mais amortie, hein, par le paiement de cette indemnité. Je ne travaille pas, mais je perçois 60% de mon salaire habituel avec le plancher et le plafond que j'ai indiqué.
Ben voilà, on imagine aussi pour les salariés concernés l'impact en termes de pouvoir d'achat que ça a à la maison. Et voilà, on a essayé de répondre à quelques-unes de vos questions, Momo, Catherine et Annick. On vous remercie de nous avoir écrit. Vous voyez, on fait travailler nos experts tout le week-end. Donc continuez à nous écrire et puis on vous apporte des réponses.
Merci Nicolas Léger. Merci d'être venu dans notre émission. Dans un instant, la suite de BFM avec vous. On recrute, restez avec nous.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
On recrute dans BFM avec vous et on va parler de vêtements avec notre premier recruteur, Lorraine.
Il s'agit de Ralph Manceau. Bonjour Ralph.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur du Closet, en fonction de comment vous voulez prononcer, à la française ou pas. Avec vous, on est dans un service de location de vêtements. Alors, ça va particulièrement intéresser les travailleuses qui nous regardent, puisque vous vous adressez aux vestiaires féminins avec un service de vêtements, mais aussi d'accessoires pour les femmes actives, ou en tout cas celles qui ont besoin de changer de tenue régulièrement.
Exactement. Donc, on propose des nouveaux modes de consommation via de la location de vêtements et de la vente de seconde main. Donc, ça s'inscrit dans une tendance de vouloir consommer différemment avec une approche qui est je m'abonne mensuellement et je peux profiter d'un dressing illimité partagé avec la communauté.
Donc, vous aviez créé votre entreprise en 2014 et on imagine que ces dernières années, le concept a évolué encore. Vous étiez déjà en avance. Ouais. Comment il a évolué ?
Alors, énormément. Ça veut dire qu'en 2014, quand on se lance dans le prêt-à-porter, dans la mode, il y a très peu d'acteurs qui réfléchissent à ces nouveaux modes de consommation. Mmh. Et nous, on a cette intuition que ça va devenir une vague assez vite. Mmh. Donc, on se place dessus et petit à petit, ça explose. Et maintenant, on ne fait que parler de ces nouveaux modes de consommation. Donc, il y a plein de manières de consommer différemment. Nous, on apporte notre pierre à l'édifice avec notre modèle de location de vêtements.
Alors, vous avez quand même évangélisé quelque chose de très nouveau parce que louer des habits, c'était quand même pas très intuitif. Mmh. C'est quand même une nouvelle manière de consommer. Sandra le disait, qui est un peu rentrée dans les usages culturels pour les plus jeunes soucieux d'écologie. Mais c'est surtout cette logique de convaincre aussi les marques que leurs produits sont à consommer. Mmh. Comment vous avez fait pour convaincre des marques partenaires de rentrer dans votre vestiaire?
Oui. Alors les marques, en fait, il faut se dire que ça fait pas mal d'années qu'elles réfléchissent aux tendances de demain et qu'elles s'inquiètent de mes ventes baissent, les gens veulent consommer différemment, et donc elles sont plutôt à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. Donc il n'y a pas... Alors qu'en 2014, c'était compliqué d'aller leur parler avec ce nouveau modèle qu'elles ne connaissaient pas du tout et qu'elles ne comprenaient pas trop, là, ça devient de plus en plus fluide parce qu'elles se posent des questions et elles sont plutôt partantes pour tester ces nouvelles choses.
Donc, vous êtes 50 actuellement dans l'entreprise, basée à Paris, et vous faites beaucoup de recrutement, du coup.
Alors oui, on est une cinquantaine, divisé en deux. On a un entrepôt qui est dans le 77 où on gère toutes les opérations. Ça, c'est 25 personnes. Et on a des bureaux à Paris qui sont concentrés sur le développement de la boîte. Donc, très récemment, on vient de faire une opération de capital qui fait qu'on s'oriente sur une grosse croissance, un changement d'échelle sur les prochaines années. Et donc, on recrute effectivement beaucoup, très axé sur le marketing et la tech.
Alors justement, listez-nous précisément les gens importants à trouver, une vingtaine de postes à pourvoir. Qui sont, disons, les trois typologies de postes les plus urgentes?
Ouais. Alors d'un côté, on aura tout ce qui se rapproche de la tech. Donc on est sur un business où toutes nos opérations tournent sur une plateforme tech qui est développée en main, avec des machines à l'entrepôt. Et donc ça implique une grosse équipe. Donc il y a déjà trois développeurs, senior développeurs qu'on cherche pour venir étoffer notre équipe tech. Le second pôle sur lequel on va beaucoup recruter, c'est le marketing. Et donc on se concentre sur des gros projets de croissance. On veut aller mettre un pied dans d'autres pays européens. Donc on va vraiment étoffer notre équipe sur des métiers qui sont du merch, donc aller personnaliser l'expérience de nos abonnés, de l'acquisition et aussi des réseaux sociaux, donc aller plus loin sur notre gestion de notre communauté. Et enfin, le troisième pôle, ça va être donc les opérations. On est toujours en croissance sur le nombre d'abonnés, donc ça implique un entrepôt et des opérations qui grossissent petit à petit. Donc on cherche des opérateurs logistiques et des chefs d'équipe qui viennent travailler à l'entrepôt.
Ça se passe du côté de Moissy, Cramayel, il faut être précis, parce que ce sont des activités qui ne sont pas évidemment télétravaillables. Vous avez un recrutement qui est forcément un petit peu local et vernaculaire. Quel est l'esprit de travail de votre entrepôt? On sait aussi que tout ce qui est logistique est très très sous tension. Ouais. Pourquoi aller travailler chez vous plutôt que d'aller travailler dans un autre type d'entrepôt avec d'autres produits que les habits?
Oui, alors en fait, on est déjà divisé en deux. Donc les parties market et tech, pour des raisons de recrutement, c'est dans des bureaux parisiens. Et ensuite, l'entrepôt, donc la logistique et les opérations, c'est dans des bureaux à Moissy-Cramayel, dans le 77. En fait, sur la partie bureau, market et tech, on a un projet qui est assez ambitieux avec une volonté d'apporter vraiment une pierre à l'édifice du changement des modes de consommation. Donc on va recruter des gens qui sont intéressés par cette mission et le sens que peut avoir cette industrie qui est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Sur la partie entrepôt, donc c'est un métier où on va assurer le bien-être de nos opérateurs logistiques avec un rythme de travail qui est personnalisé en fonction des besoins de la boîte et une ambiance d'équipe assez stimulante sur OK, on fait un métier où on doit délivrer le meilleur service possible pour plaire à notre communauté qui veut consommer différemment.
Combien de postes télétravail sur la vingtaine que vous proposez?
Alors, c'est à peu près 8 postes qui sont concernés par les bureaux et le reste, ça sera concerné du coup par les opérations.
Où est-ce qu'on postule, Lorraine?
Alors, ça se passe sur Welcome to the Jungle, à Le Closet, C-L-O-S-E-T. Et puis, ça se passe aussi sur Indeed. Et puis, il y a une adresse à laquelle vous pouvez joindre l'équipe directement. C'est recrutement au singulier @lecloset.fr. Et puis, vous allez retrouver cette interview de Ralph d'ici quelques minutes sur notre LinkedIn et notre Twitter.
Merci, Ralph Mansour, d'être venu nous voir aujourd'hui pour Le Closet. On vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, sur cette adresse aussi avec boîte@bfmbusiness.fr. Regardez aussi ce QR code grâce auquel vous pouvez directement nous écrire. Votre deuxième recruteur, Lorraine, c'est Vincent Boëlet.
Oui, on change de secteur. Vous êtes le directeur de l'emploi chez Elior France. Bonjour. Vous êtes avec nous pour parler évidemment restauration collective et tous les métiers qui sont à pourvoir dans votre secteur. On présente Elior rapidement, c'est une vieille boîte.
Oui, une vieille boîte avec 42 000 collaborateurs en France, une activité dans plusieurs pays, mais pour vraiment parler de la France, une activité de la restauration collective sur trois segments. Le marché de l'entreprise, donc là les travailleurs, le marché scolaire où on nourrit des étudiants et puis des enfants de la crèche jusqu'au lycée, et puis il y a les hôpitaux, et puis là ça va être des patients, et donc on est engagé au quotidien. Donc ça c'est la première activité d'Elior, et ça fait qu'au quotidien c'est 1,1 million de repas qui sont servis par Elior, et puis on a une autre activité qui est la propreté et le facility management, et ça c'est Elior Service.
Je dis vieille, mais bon, 91, c'est pas très vieux, mais quand même, on a beaucoup de jeunes entreprises qui viennent.
C'est vrai, voilà. Habituellement, en effet. Et évidemment, vous êtes au cœur d'un secteur où il manque beaucoup, beaucoup de monde. Quel type de poste vous recherchez? Quel profil?
Oui, il nous manque du monde. Et on a 1000 postes aujourd'hui à pourvoir. 1000. Chez Elior. Bon, sachant qu'on a 9500 restaurants et points de vente sur le territoire. Par contre, voilà, des besoins répartis sur le territoire. On est présent sur toute la France, donc j'en profite pour parler.
Ça, c'est très bon à savoir.
Il y a des beaux métiers de la restauration, ouais. Des métiers différents de service, donc ça va être les métiers d'accueil, les métiers aussi de service en salle, ça va être le métier de cuisinier, de seconde cuisine, de chef gérant, où on voit que le marché aussi évolue, hein, le marché du travail. Historiquement, on avait des personnes de seconde partie de carrière qui nous rejoignaient pour un équilibre vie privée, vie perso plus fort. Parce qu'on a des activités chez nous où globalement se font du lundi au vendredi, donc ça permettait de gagner en qualité de vie. On voit aujourd'hui qu'il y a aussi des plus jeunes qui veulent nous rejoindre, et donc ça c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en avant parce qu'il y a des belles opportunités.
Et vous parlez de toute la France, alors si on peut vous aider de manière pragmatique, listez-nous peut-être les endroits où il y a le plus de tensions, où vous avez le plus de mal à recruter.
Alors je vais faire un top 3. L'Île-de-France est un segment en tension. On va avoir l'Occitanie aujourd'hui, la Bretagne et le PACA.
Ça fait un top 4.
Voilà, j'en rajoute un quatrième. Et aussi pour dire un élément important chez nous, la formation, c'est une valeur clé chez Elior. Et je tiens absolument à revenir sur ce point qui est primordial pour nous. On a la chance d'avoir des personnes qui évoluent, qui ont à l'origine un CAP, qui évoluent en bac, en BTS, et qui au final, dans leur parcours, évoluent sur des directions de sites. Et tout ça pour dire, on recherche encore en alternance, parce qu'on s'est aussi formé. Donc on a à peu près aujourd'hui une centaine de besoins non pourvus sur à peu près 500 alternants qu'on forme chaque année.
Malgré tout, comment on fait revenir du personnel dans un secteur aussi en tension? Quel argument on peut marche dans les recrutements que vous opérez? Qu'est-ce que les candidats peuvent entendre?
Souvent, quand on parle de travail, on parle de contraintes. Moi, j'ai envie de dire...
De pénibilité, oui, c'est vrai.
De pénibilité, mais on met aussi des choses qui plaisent beaucoup. Alors, chez nous, ce qui plaît, quand on prend un poste chez Elior, déjà, on travaille en équipe. La plupart de nos collaborateurs nous disent, on a une équipe, on a un travail au quotidien à faire, mais on voit tout de suite les résultats. C'est-à-dire que le matin, on travaille ensemble. Si on a été bon, le client est content. Si on n'a pas été bon, le client, il n'est pas content. Ouais. Et ça, en fait, ça plaît à beaucoup de gens. Alors que certains disent, j'aime être à 100% télétravail. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des gens qui aiment au quotidien aller au travail. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi d'ouvrir des perspectives de carrière. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on commence employé de restauration qu'on peut pas évoluer cuisinier. Donc, on met en place des parcours de CQP. C'est pas parce qu'après, on est cuisinier qu'on peut pas monter sur un poste d'encadrement. Et alors que peut-être il y a 5-10 ans chez nous et chez nos concurrents, il y avait des cours très normé d'évolution. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la pénurie fait qu'on se pose systématiquement la question de comment on fait pour trouver la personne adéquate pour le poste, en interne avant tout.
Ouais.
Et puis aujourd'hui, on voit que c'est vrai que ça ne suffit pas, donc il faut aller chercher aussi en externe. Parce que quand on a un nouveau restaurant, quand on a une nouvelle solution à mettre en place, voilà, ça correspond. Et puis, on a aussi une évolution du modèle, quand même, de la restauration. Je prends la restauration d'entreprise. En restauration d'entreprise, elle a évolué avec des concepts digitaux, du click and collect. Donc, ce n'est plus exactement les mêmes métiers. On est quand même sur une partie de nos solutions assez loin de la cantine dont on se souvient, de moi, par exemple, quand j'étais plus jeune.
Voilà, si vous voulez participer au renouveau de la restauration collective, ça se passe sur le site d'Elior, E-L-I-O-R. Directement sur le site internet, vous allez retrouver l'ensemble des offres qu'on a brassées rapidement. Presque 1000 postes à pourvoir, et vous l'avez entendu, pour les plus jeunes et pour ceux en besoin de formation, il y a donc des opportunités.
Merci Vincent Boëlé d'être venu nous voir aujourd'hui.
Merci.
Beaucoup, beaucoup de postes, effectivement. Demain, Lorraine, les RH sont-ils acteurs clés de la décarbonation en entreprise? Ce sera votre thème.
Et oui, quel est votre rôle?
Voilà, vous nous suivez. Demain, vous nous retrouvez à midi en direct sur BFM Business. Cette émission est à retrouver en podcast et en replay. Passez une très bonne journée. À demain.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.